RCF.
Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Bonjour Yann, bonjour Michel. Nous nous sommes quittés la dernière fois en parlant de lois naturelles, de respect de la vie, des grands principes, et nous avions essayé de voir la permanence dans le temps d'un certain nombre de ces principes. Mais y a-t-il autour de cela un certain nombre de questions, des changements, des choses qui s'adaptent, des choses comme celle-ci? Michel, je pense tu peut-être J'ai des questions, mais peut-être en as-tu.
Yann, moi, je suis un bon citoyen. Je reviens sur ce que disais sur le respect de la vie ou de la personne humaine. Voilà, je suis un bon citoyen, sur le juste salaire. Qu'est-ce que l'Église va apporter de plus? J'ai en quoi est-ce que moi, en tant que bon citoyen qui vote systématiquement, qui paye ses impôts, qu'est-ce que l'enseignement de l'Église va m'apporter?
Elle va apporter une confirmation d'un certain nombre de choses. On vient de parler de la loi naturelle. Je reprends la notion de respect de la vie, qui est un phénomène extraordinaire, puisque aujourd'hui, on voit la science confirmer ce que l'Église a toujours dit. On part de la Genèse, croissez et multipliez. Vous allez dans l'Ancien Testament, vous retrouvez le psaume de David, qui est une louange. J'en cite trois ou quatre versets. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Mon corps n'était point caché de toi. Mon embryon, tes yeux le voyaient, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. En plus, ça rejoint ce que disaient les Romains qui n'étaient pas particulièrement catholiques, et pour cause. Il y a un adage qu'on apprend d'ailleurs quand on fait des études de droit. Infans conceptus pronato abetur. Un enfant conçu est considéré comme un né. Donc il y a bien la vie dès la conception. Et ça, c'est un enseignement de l'Église. Et aujourd'hui, l'Église nous le répète. Et aujourd'hui, quand des gens étaient scandalisés...
En tant que païen, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que l'Église va m'apporter vraiment? En quoi il est nécessaire que je me convertisse si nécessaire?
Eh bien, tout simplement, il y a la révélation. Et tout ça nous est confirmé par notre Seigneur. Et l'Église y met son onction, si je puis dire. Et l'Église... Au fur et à mesure que se présentent des situations, elle va soit nous confirmer dans un certain nombre de choses, soit adapter, soit même condamner. Je rappelle quand même que c'est l'Église qui est la première à condamner le national-socialisme avec l'encyclique, cette lettre adressée au monde entier, qui était d'abord adressée aux Allemands, c'est vrai, puisque c'est la seule encyclique qui était écrite en allemand, mit Brunnender Sorg, qui est une condamnation irrémédiable. La même année, en 1937, l'Église a condamné le communisme comme intrinsèquement pervers. Intrinsèquement.
Ok, donc l'Église, tu es en train de me dire que l'Église, c'est un phare qui traverse les époques, que moi, en tant que simple personne humaine, j'ai intérêt à me laisser éclairer par ce phare, parce qu'il y aura cette constance de l'enseignement tel qu'on l'évoquait.
Tu es libre de le suivre ou pas. Bon, et donc quoi? L'Église te dit, c'est le phare, l'image est bonne, parce qu'elle éclaire les écueils.
Ok, alors, au-delà de ça, quelle est l'adaptation nécessaire que l'Église doit faire pour tenir compte de son époque?
Eh bien, forcément...
Parce qu'on n'est plus sous le Moyen-Âge, écoute-moi, je suis désolé, mais...
c'est bien évident. L'Église n'a pas attendu le XXe siècle pour nous parler, ou XXIe siècle pour nous parler de la liberté, pour nous parler de la nécessité de respecter la dignité de l'être humain. Je prends un exemple qui est révélateur, on aura l'occasion d'y revenir au cours des émissions suivantes, je suppose. On l'a déjà un peu évoqué, mais c'est ce fameux principe de subsidiarité qui est un fondement dont l'Église nous dit ne vous en séparez pas, vous allez vous casser la figure si vous le faites. D'une part, l'ordre social ne fonctionne plus, c'est l'Église qui dit ça. Quand on respecte pas ça, c'est-à-dire laisser chacun Laissez-le s'occuper de ses propres oignons. Excusez-moi, ce n'est pas un langage très ecclésiastique, mais je le traduis. Hein, n'intervenez pas dans les plates-bandes de ceux qui sont capables de régler leurs propres problèmes. Ben, l'Église nous dit, si vous ne faites pas ça, eh ben, vous allez troubler l'ordre social et en plus, vous êtes injuste à l'égard de l'individu puisque vous lui retirez le pouvoir de régler lui-même ses propres affaires.
Donc ça, on le trouvera dans
l'éducation.
Dans le monde associatif, dans l'éducation, dans la famille,
partout.
Dans l'entreprise, partout.
Partout. Okay.
On y reviendra, je pense. Mais comment est-ce que l'Église prend en compte les innovations techniques? Comment l'Église prend en compte Internet, la mobilité, la variation du temps de travail, l'urbanisation?
Alors, pour ça, pour l'Église, c'est des questions secondaires. L'Église va pas mettre son nez là-dedans. Il y a pas longtemps, j'étais dans une émission où on me demandait ce que l'Église pensait du salaire des députés.
Alors, puisque c'est une question secondaire, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause, justement, de façon à ce que nous puissions revenir à des questions plus essentielles dans quelques instants. Reprenant notre discussion, nous nous sommes quittés tout à l'heure sur des questions d'évolution technique, je dirais même en ce qui me concerne plutôt technologique dans certains cas. Yann, nous parlions d'affaires mineures ou d'affaires plus ou moins importantes. Malgré tout, elles bouleversent complètement nos modes de vie, nos comportements dans certains cas. Et n'y a-t-il pas là des matières à évolution, à adaptation, au minimum reformulation d'un certain nombre de ces principes ou de ces règles dont nous parlions?
Je crois qu'il faut être clair là-dessus. Lors du Concile Vatican II.
En quelle année?
C'était dans
60, 70.
Oui, 60, il s'est terminé en 64, donc
d'accord.
C'est dans la période 60-64. Lors du Concile Vatican II, la Constitution, je rappelle Concile Vatican II, qui était un concile pastoral, donc qui n'obligeait pas, qui était pastoral, contrairement à un concile infaillible ou dogmatique. Le Concile Vatican II n'obligeait pas, mais le Concile, dans sa constitution Dei Verbum, précisait que, et je cite, le magistère, donc le magistère c'est le pape et le corps enseignant, n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il est à son service, n'enseignant que ce qui a été transmis. Et il cite... Le Concile Vatican I, qui s'est passé à la fin du 1800, il a été interrompu par la guerre de 70. Donc 1870, donc un siècle avant, le Concile Vatican I, qui lui était un concile dogmatique et qui affirmait que le Saint-Esprit assiste Pierre et ses successeurs, c'est-à-dire le magistère, non pas afin qu'il puisse par sa révélation faire connaître une nouvelle doctrine, mais qu'ils sauvegardent, protègent, transmettent cet enseignement qu'ils ont reçu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église ne va pas changer. Je prends un exemple très contemporain. Nous venons d'avoir cette information de cette situation, je ne sais plus où, je crois que c'est aux États-Unis, d'une grand-mère qui a mis au monde sa petite fille par les procédés de...
D'implantation,
donc de FIV, ou de FIV, je ne sais pas comment on dit, à partir d'un spermatozoïde de son fils et d'un ovule de sa sœur, de sa sœur. Et donc, c'est la grand-mère qui a mis... Attends, l'Église nous dit, ne bricolez pas là-dessus. Ne bricolez pas, vous allez à l'encontre des lois de Dieu. Elle nous met en garde. Et on sait très bien qu'on va retomber dans une période de... J'ose pas employer le mot, la pagaille, je reste poli, pour s'y retrouver. On va donner du travail aux généalogistes, aux avocats, etc.
Donc,
on trouble l'ordre social.
Donc, une nouvelle fois, moi qui ne suis pas catholique... Hypothèse. En tant que citoyen, je considère que l'Église, sur un sujet tel que celui-là, éclaire ma conscience, et c'est vrai que ça paraît absolument aberrant, donc ça me permet d'avoir ce message qui est supérieur à ce que fait l'homme et qui traverse les siècles.
Tout à fait. Et c'est l'éclairage du phare dont tu parlais tout à l'heure. Mmh. C'est un écueil. Il est là, on a un écueil terrible. On va le voir d'ici quelques générations. C'est, je pense, un point essentiel de cet apport de l'Église qui sans rentrer dans les détails, nous mettons garde sur un certain nombre de dangers à titre personnel et qui nuisent à l'évolution, qui nuisent à notre évolution ultérieure, c'est-à-dire une fois qu'on sera sous terre et qu'on sera amené à régler notre sort éternel. Parce qu'il est évident que tout ça a des conséquences sur le salut.
Eh bien, je vous ai senti l'esprit plutôt marin, puisque nous avons vu, nous étions éclairés par un phare, nous avons essayé d'éviter des écueils, la navigation était difficile, on vient de nous dire qu'on pouvait même naviguer sous terre, j'ai pas très bien compris, je pensais que c'était sous l'eau d'habitude, mais très bien. Et ce voyage à travers la permanence, la continuité plus sérieusement, puisque c'était l'élément essentiel que nous avons évoqué aujourd'hui, ce voyage devrait nous emmener peut-être sur d'autres rivages, mais j'aurais, moi, des questions à vous poser, car je voudrais savoir un petit peu si, dans d'autres lieux, d'autres coutumes, d'autres pays, d'autres cultures, on peut... Alors, faut-il dire adapter? Faut-il dire transmettre? Faut-il dire... je ne sais, traduire peut-être, mais donc ça pour moi ça reste une très grande question et j'aimerais que nous en discutions lors d'une prochaine rencontre.